Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Point de vue, à l'émission d'aujourd'hui. À Québec, d'abord, l'organisme pêche Sherpa se déclare zone anti-exclusion.
C'est correct de ne pas comprendre et on n'est pas obligé de tout comprendre. Tu n'as pas à comprendre l'expérience de quelqu'un d'autre. Tu n'as qu'à t'ouvrir à elle, la respecter, puis ce serait plate si tout le monde était pareil.
Le nombre d'étudiants étrangers est en berne au Canada. Les collèges, les universités et les étudiants étrangers eux-mêmes s'inquiètent pour leur avenir.
Pour moi, ce que je m'attends, c'est que le gouvernement mette en place des actions concrètes pour rencontrer leurs obligations sur la loi sur les langues officielles, c'est-à-dire de réétablir le poids démographique de la francophonie.
On soulignait la fête du patrimoine à l'école rurale anglophone d'immersion de Nelson au Nouveau-Brunswick.
Tout le monde sont ensemble aujourd'hui. On avait comme grande cérémonie d'ouverture ce matin avec toutes les cultures. On a besoin de célébrer nos différences et aussi on a besoin de célébrer ensemble.
On lance à Ottawa des projets qui font tourner les pages dès le plus jeune âge.
C'est vraiment le point de départ, le levier pour l'apprentissage ensuite des notions fondamentales en lecture.
Et le nouveau club d'improvisation, la Slice, a vite trouvé son public et revient sur le verre d'un golf, mais oui, pour une deuxième saison.
Le succès qu'on a eu l'an passé, c'est un peu hallucinant. La communauté, elle s'est vraiment mobilisée autour de nous autres.
Bienvenue à Point de vue, l'info locale, partout au pays.
Vous êtes à l'antenne de Point de vue. Écoutez tous nos reportages sur fréquenceinfo.ca.
Bonjour et bienvenue, Boris Chassagne qui vous accompagne pour la prochaine demi-heure. Mais je ne serai pas seul, je vais profiter de ce que nous ramènent nos journalistes IJL postés d'un bout à l'autre du pays. On fera un tour au Québec, au Nouveau-Brunswick et en Ontario. Québec d'abord, où l'organisme pêche Sherpa s'inquiète d'une montée de l'intolérance au Québec comme ailleurs dans le monde, et notamment envers les personnes LGBTQ+, et les immigrants. L'organisme manifeste son opposition à ces reculs démocratiques en se déclarant zone anti-exclusion. L'organisme Pêche Sherpa, qui fait de la mixité sociale sa priorité, soutient des personnes vulnérables et marginalisées depuis plus de 30 ans. L'organisme affirme être, et je cite, « des ranimeurs d'espoir, des passeurs de liens, des miroirs de l'humanité, des personnes qu'ils accompagnent dans leur parcours de rétablissement ». Fin de citation. Pêche Sherpa, qui a un café et une ruche d'art, et qui mène des activités de médiation culturelle, monte aussi des expositions. Pour l'intervenante Julie Tremblay, qui y travaille, il était important de réaffirmer que, et je cite, « nous n'allons pas tolérer l'intolérance avec cet événement et la déclaration de zone anti-exclusion » Alice Zanetta à Québec.
Bien, c'est sûr que la planète en entier, on est dans un cycle où il y a des reculs au niveau des droits des minorités.
L'organisme Pêche Sherpa, qui soutient des personnes marginalisées depuis plus de 30 ans dans le centre-ville de Québec, s'inquiète d'une montée des discours haineux dans l'espace public. L'intervenante Julie Tremblay.
Ici, on parle d'immigration, des mots comme gay, tapette sont réutilisés dans les écoles.
Même si Pêche Sherpa prône la mixité sociale depuis ses débuts, il est important pour Julie Tremblay que l'organisme se positionne clairement contre l'intolérance en devenant une zone anti-exclusion et en tenant aussi une journée de l'inclusion.
Nous n'allons pas tolérer l'intolérance.
Pendant cette journée de l'inclusion ouverte au public, l'espace Pêche Sherpa a rassemblé différents organismes, comme Gris Québec sur la diversité sexuelle ou encore Folliculture qui mêle santé mentale et art visuel.
C'est quoi la valeur fondamentale de l'inclusion s'il y en a?
Acceptation.
La Maison Philo était aussi de la partie. L'organisme a proposé une discussion philosophique sur l'inclusion. Félix Viel, de la Maison Philo.
L'idée, c'est du dialogue philosophique, c'est prendre un petit peu de recul. Donc, pas seulement rester dans nos émotions primaires. Évidemment, on peut avoir des émotions associées au concept, mais l'idée, c'est de prendre une distance et de revenir, une fois qu'on a pris cette distance-là, de pouvoir revenir par la suite dans nos émotions pour peut-être se réaligner. Ça permet réellement aussi d'avoir une inclusion, parce que si je suis juste dans mes émotions, je ne suis pas ouvert aux autres.
Johan, un participant de la discussion, qui a par le passé connu l'addiction et la rue, il s'est souvent senti exclu de la société.
L'inclusion, c'est un sujet qui me touche beaucoup, vraiment, vraiment beaucoup. Je trouve ça très important parce que je l'ai vécu.
De se sentir exclu?
Ouais. Mais dans le regard, ne serait-ce que de pas répondre à des salutations bienveillantes.
Et de l'exclusion de la société à l'abus, il n'y a qu'un pas, raconte Johan, qui dit avoir subi de la négligence des services en santé et de la brutalité policière. Des histoires, il en a plein à raconter, comme la fois où il dit s'être fait attacher durant 8 heures à l'hôpital, alors que selon lui, son état ne le justifiait pas.
Ça devrait exister juste dans les cas vraiment sévères, mais c'est utilisé à outrance.
Il raconte aussi avoir vécu de l'humiliation en milieu hospitalier.
Mon visage pissait le sang, okay, je ne voyais plus rien. J'arrive à l'hôpital. À l'époque, j'avais l'hépatite C. On remonte à 15 ans. J'ai précisé quand même que mon passé consommateur, ça fait au moins 5 ans que je l'ai réglé. Le médecin m'a carrément dit « Arc, j'ai pas fait la médecine pour ça. » Genre, quel impact que ça a sur la personne? C'est tellement humiliant, là. C'est que ça marque. C'est que ça reste marqué au niveau des traumas. Ce qui peut être dit, ce qui peut être fait.
Pour Francine Tourigny, qui participait aussi à la discussion philosophique, se sentir inclus lui a sauvé la vie. Alors que jeune adulte, elle a été diagnostiquée de schizophrénie.
Parce que le psychiatre m'avait exclu. Il dit « pense pas te marier, pense pas avoir des enfants, pense pas travailler, c'est le BS puis tes pilules toute ta vie. » Fait que là, j'avais 21 ans, je fais plus partie de la société, là. Mais là, par le communautaire, je me suis réintégrée à la société, puis j'ai fait des progrès, puis ma santé est revenue. Avant d'être une malade, là, je suis une citoyenne.
L'intervenante, Julie Tremblay, rappelle que l'inclusion n'est qu'une question d'empathie.
C'est correct de ne pas comprendre et on n'est pas obligé de tout comprendre. T'sais, je pense que des fois, on s'oblige de tout comprendre. Je comprends pas. Ben, c'est correct. Si tu ne comprends pas, tu n'as pas à comprendre l'expérience de quelqu'un d'autre. Tu n'as qu'à t'ouvrir à elle, la respecter, puis ce serait plate si tout le monde était pareil.
Alice Anetta pour IGL à Québec.
Bonjour, ici Vincent Lavoie à Miramichi, au Nouveau-Brunswick. Vous écoutez Point de vue. Des questions, commentaires ou suggestions? Écrivez-nous radio@fréquenceinfo.ca, radio@fréquenceinfo.ca. Tous nos journalistes vous attendent sur fréquenceinfo.ca.
On entre maintenant en zone scolaire avec trois reportages que nous ramènent Vincent Lavoie, Gabriel Poulain et Annette Minka. Première halte, on l'a fait à Toronto, en Ontario, où on se demande ce que l'ère de Mark Carney réserve aux étudiants internationaux et aux institutions scolaires qui les accueillent et les éduquent. Rappelons que le nombre d'admissions est en berne au pays depuis 2024. Ottawa, qui sous l'ère Trudeau, a en 2024 donc instauré un plafond national sur le nombre de nouveaux permis d'études délivrés aux étudiants étrangers, cédant ainsi aux pressions exercées souvent par des provinces, aux prises avec une pénurie de logements et une pression importante sur leurs services publics. La mesure a eu des répercussions immédiates, il va sans dire. Recul marqué du nombre d'admissions, hausse encore plus marquée des frais de scolarité, déficit budgétaire des institutions scolaires, suppression de programmes, faute d'inscriptions suffisantes. L'inquiétude gagne donc du terrain aussi bien chez les étudiants déjà présents au Canada que chez ceux qui espèrent s'y installer. Les universités, collèges et organismes communautaires, surtout dans les provinces les plus touchées, comme l'Ontario, tirent la sonnette d'alarme et réclament des actions concrètes de la part du gouvernement fédéral. Voici ce que nous a ramené Annette Minka à Toronto.
En 2024, le gouvernement fédéral a imposé un plafond sur le nombre de permis d'études accordés aux étudiants étrangers. Ottawa évoquait la crise du logement, la pression sur les services publics et la nécessité de préserver l'intégrité du système. Résultat, 360 000 permis d'études ont été délivrés cette année-là, une baisse de 35% par rapport à 2023. En 2025, on note une remontée, 437 000 permis ont été accordés, mais ce chiffre reste en deçà des niveaux d'avant-pandémie. Des mesures qui, sur papier, semblent répondre à des enjeux bien réels, mais pour plusieurs étudiants, en particulier ceux qui souhaitent venir de l'étranger, elle crée beaucoup d'incertitudes. Paul Véronique Fouda Mengue est étudiante en culture numérique à l'Université de l'Ontario français. Elle s'inquiète des conséquences de ces décisions sur les futurs candidats à l'immigration.
Nous sommes déjà sur le territoire. Ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, on n'a plus grand-chose à craindre. Mais d'un autre côté, on se fait du souci par rapport à toutes les autres personnes qui sont peut-être restées et qui aimeraient bien, comme nous, continuer leurs études à l'étranger.
Autre nouveauté, l'introduction d'un test de français obligatoire pour obtenir un permis de travail post-diplôme. Une exigence qui s'applique même aux étudiants ayant étudié en français au Canada.
C'est une mesure qui fâche un peu tout le monde parce qu'on se dit, on est étudiant international, on étudie en français. On n'a pas vraiment besoin de faire un test de français supplémentaire parce que toute la scolarité se fait en français. Donc, pour bon nombre d'entre nous, c'est une mesure qui ne fait pas vraiment sens. Mais si on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Et je dirais que, étant donné qu'on étudie en français, certainement, ça ne sera pas très compliqué pour nous de passer ces tests de langue. Mais c'est surtout que ces tests de langue coûtent à peu près plus de 200 $. C'est ça le problème.
Malgré ce climat tendu, Paul Véronique garde espoir.
Moi, je continue d'imaginer et de voir un futur ici. Maintenant que nous sommes sous le règne de Marc Carney, il faut dire que ces politiques d'immigration, d'une manière ou d'une autre, privilégient un peu les personnes qui sont déjà sur le territoire. Selon ce que j'ai vu, les étudiants, alors les résidents temporaires qui sont sur le territoire auront plus de place par rapport à la résidence permanente, ce qui est une bonne chose. Donc, je pense que ce soit les résidents temporaires, que ce soit les étudiants internationaux, on ne doit pas perdre espoir. On ne va pas se dire que c'est fini pour nous, on va rentrer à la maison, non. Il y a quand même une petite lumière là qui brille sous le règne de Marc Carney, donc on va s'accrocher à ça.
Cette dernière espère maintenant un geste du gouvernement pour reconnaître pleinement la contribution des étudiants internationaux au tissu social et économique du pays.
Faciliter le processus d'immigration. Ça veut dire de considérer les diversités, de considérer la richesse culturelle que nous, les résidents temporaires, que nous, les étudiants internationaux, nous apportons au Canada. Et à partir de ça, de vraiment clarifier, d'avoir un processus d'immigration qui est clair et favorable pour toutes les personnes qui sont déjà sur le territoire. Les étudiants internationaux rencontrent plusieurs défis, notamment celle du logement. Je pense qu'il y a une grosse crise de logement là qui affecte tout le monde, particulièrement les étudiants internationaux, parce que là, il y a des loyers qui sont de plus en plus chers. On n'en trouve même plus. En dehors de ça, je dirais aussi l'accessibilité au monde de l'emploi. Parce qu'avant, lorsqu'on avait la possibilité de travailler à temps plein, on pouvait quand même encore trouver des emplois raisonnables. Maintenant que la limite, c'est vraiment 24 heures et de travailler à temps partiel, ça devient un peu compliqué pour tout le monde, enfin pour les étudiants internationaux notamment, de trouver du travail.
Cette inquiétude ne se limite pas aux parcours individuels. Elle reflète un malaise plus large qui frappe tout le secteur post-secondaire, en particulier les institutions francophones à travers le pays. À Moncton, l'université annonce une hausse des frais de scolarité. À Ottawa, des étudiants francophones dénoncent un climat de francophobie. Et à Toronto, plusieurs établissements doivent revoir leur modèle économique. Le collège Glendon, affilié à l'université York, fait face à un déficit de 40 millions de dollars. Il a annoncé une réduction du nombre de ces départements, alimentant les craintes quant à l'avenir de l'enseignement post-secondaire en français en Ontario. Fabien Hébert, président de l'Association de la francophonie de l'Ontario, félicite la nomination d'un ministre dédié aux langues officielles, mais il attend des actions concrètes pour renforcer la francophonie.
On s'attend à ce que le nouveau gouvernement continue le travail qui a été préparé, c'est-à-dire de réétablir le poids démographique de la communauté francophone à travers du Canada. Donc, ce qu'on a vu un peu dans le dernier gouvernement, c'était qu'on met de l'avant des obligations ou des objectifs à atteindre, mais certaines des actions du gouvernement, clairement, sont contradictoires. Donc, on veut réétablir le poids démographique. Par contre, on prend des actions pour diminuer ou restreindre le nombre d'étudiants francophones étrangers. Donc, ça vient vraiment jouer à l'encontre de l'objectif qui est dans la nouvelle loi sur les langues officielles. Donc, pour moi, ce que je m'attends au niveau des étudiants étrangers et de l'immigration, c'est que le gouvernement mette en place des actions concrètes pour rencontrer leurs obligations sur la loi sur les langues officielles, c'est-à-dire de réétablir le poids démographique de la francophonie dans un temps qui est raisonnable. On ne veut pas réétablir le poids démographique dans 100 ans. On veut que ces démarches-là soient faites plus rapidement pour s'assurer que ça arrive dans un délai raisonnable.
Depuis la mise en place du plafond national sur le nombre de nouveaux permis d'études délivrés à des étudiants internationaux, les conséquences se font ressentir. Diversité réduite sur les campus, pression financière accrue sur les institutions et parcours d'immigration rendu plus complexe pour des milliers d'étudiants internationaux. Ici Annette Minka pour l'initiative de journalisme local à Toronto.
Ici Robert Savard à Shawinigan, au Québec. Vous écoutez Point de vue. Des questions, commentaires ou suggestions? Écrivez-nous radio@fréquenceinfo.ca.
On reste en Ontario et on se déplace vers Ottawa où un projet fait tourner non pas les têtes, mais les pages. Dès le plus jeune âge, il s'agit du nouveau programme « Lire un jour, lire toujours » lancé au début du mois de mai. « Lire un jour, lire toujours » est un nouveau programme provincial qui vise à soutenir l'apprentissage de la lecture chez les élèves, de la maternelle à la deuxième année, dans les écoles francophones de l'Ontario. Lancé avec la collaboration des 12 conseils scolaires de langue française de la province, ce programme a été conçu pour répondre aux besoins spécifiques de l'enseignement en français en Ontario. Pour Marie-Ève Richer, gestionnaire du projet, le programme Lire un jour, lire toujours répond aux besoins du terrain en misant sur des stratégies explicites et adaptées au rythme de chaque enfant. Gabriel Poulin à Ottawa.
Avec la fin de l'année scolaire qui approche à grands pas, plusieurs enseignants dressent le bilan des progrès en lecture de leurs élèves. Pour ceux qui évoluent en milieu francophone minoritaire, comme ici en Ontario, les défis sont parfois de taille. Et c'est là qu'intervient l'initiative « Lire un jour, lire toujours » lancée au début du mois et dirigée par le consortium Centre Jules Léger à Ottawa. Ce programme propose des ressources pédagogiques aux éducateurs à travers la province pour soutenir l'apprentissage de la lecture chez les élèves de la maternelle à la deuxième année. Selon Marie-Ève Richer, gestionnaire du projet, Lire un jour, lire toujours se démarque car il a été conçu par et pour les francophones de l'Ontario.
On a eu la chance de créer un comité directeur avec des représentants de chaque conseil, de chaque conseil scolaire de langue française de l'Ontario. Puis, on s'est rencontrés là, pendant 2 ans de façon mensuelle afin vraiment d'aller recueillir les commentaires, d'aller chercher des suggestions tout au long de l'élaboration du processus de création du programme. Parce que l'intention, c'est vraiment de répondre aux besoins de nos élèves qui sont dans nos écoles en contexte linguistique minoritaire.
L'initiative fait écho à un rapport de la Commission ontarienne des droits de la personne qui dénonçait les lacunes du système scolaire en matière d'enseignement de la lecture, notamment pour les élèves ayant des troubles d'apprentissage. Les ressources proposées s'appuient ainsi sur des stratégies explicites tout en respectant le rythme d'apprentissage de chaque enfant. L'objectif? Favoriser un rapport positif à la lecture sans rigidité excessive.
Personnellement, moi, je suis une fanatique de la lecture et surtout des albums jeunesse. Ça a été vraiment un point d'appui dans toute la création des fiches pédagogiques qui ont été rédigées. Donc, on veut partir d'un contexte authentique. On veut, dans le fond, transmettre le goût de la lecture. Donc, c'est vraiment le point de départ, le levier pour l'apprentissage ensuite des notions fondamentales en lecture. On retrouve tout ce qui est en lien avec la transmission de l'amour de la lecture.
Après une période d'essai en classe et une phase de révision, Lire un jour, lire toujours est désormais prêt pour une mise en œuvre à grande échelle dans les écoles francophones de la province.
C'est un bon temps dans l'année, puisqu'on va déjà préparer là, pour l'année suivante. Donc, les enseignants vont pouvoir être en mesure d'être bien équipés pour septembre.
Gabrielle Poulin, IJL, Ottawa.
Vous écoutez Point de vue avec Boris Chassagne.
L'école rurale de Nelson est la seule école du district scolaire anglophone du nord de Miramichi à offrir un programme précoce d'immersion française. Comme chaque année, l'école Nelson rurale de Miramichi convie les écoles de la région à sa fête du patrimoine, où plusieurs groupes d'élèves montent des kiosques d'intérêt historique. Les exposés et kiosques sélectionnés par un panel vont représenter la région et le district scolaire à la compétition provinciale qui se tient dans quelques semaines. Parmi la trentaine de sujets mis en avant par les élèves, 2 ont été sélectionnés pour la compétition provinciale qui aura lieu à Fredericton. Vincent Lavoie, Miramichi, au Nouveau-Brunswick.
Plusieurs écoles de la région du Grand Miramichi se sont réunies pour la fête régionale du patrimoine à l'école Nelson Rural de Miramichi. Une grande occasion pour les élèves de présenter divers kiosques d'intérêt historique en vue de la compétition provinciale. Voici Ellen McDonald, enseignante à l'école Nelson Rural.
Tous nos élèves, ils ont travaillé comme tellement fort toute l'année. Les derniers mois, ils ont rendu visite sur les sites historiques, puis ils ont fait la recherche. Puis tout le monde sont ensemble aujourd'hui. On avait comme grande cérémonie d'ouverture ce matin avec toutes les cultures. On avait quelqu'un qui est venu de PEI. On a des danseuses irlandaises, qu'on avait les danseuses Micmac, les chanteurs, chanteuses, acadiens, Micmac, tout ça. Et nos élèves maintenant sont en train de partager leurs choses avec tout le monde, la communauté. Les juges ont beaucoup à faire en haut parce qu'ils m'ont dit que c'était tellement difficile. Ils sont en train de délibérer maintenant et on va avoir les gagnants tôt.
Plusieurs présentations étaient d'ailleurs réalisées en français, un critère important selon l'enseignante de cette école d'immersion française.
Nos jeunes, ils sont notre espoir pour le futur. Alors, selon moi, c'est tellement important. On a besoin de célébrer nos différences et aussi on a besoin de célébrer ensemble.
Un panel de jury a la lourde tâche de répartir les différents prix auprès de leur coup de cœur. Michael Mercero était l'un d'eux.
C'est très intéressant de voir les projets des étudiants et les sujets qu'ils choisissent pour faire des projets.
Certains prix garantissent même une place à la compétition provinciale qui prendra place à Fredericton dans quelques semaines. Ici Vincent Lavoie pour IJL, à Miramichi.
À l'antenne de Point de vue, écoutez tous nos reportages sur fréquenceinfo.ca.
Eh bien, on vous disait en ouverture d'émission que le nouveau club d'improvisation La Slice a vite trouvé son public et revient sur le verre d'un golf ontarien. Mais oui, pour une deuxième saison, les comédiens de La Slice qui ont connu un franc succès l'an dernier, ce club d'impro a été fondé par quatre amis passionnés d'impro, Nick Filion, Zachary Gosselin, Frédéric Lalonde et Dominique Payet. Ceci afin de permettre aux autres passionnés d'impro dans l'Est ontarien de s'exprimer. La saison de La Slice a été lancé le 14 mai avec des soirées d'impro présentées au public sur une base bimensuelle et ce jusqu'à la fin août. Et ça se passe donc au club de golf de Hammond en Ontario. Alors que plusieurs ligues d'improvisation s'inspirent des règles du hockey, la Slice, ben, elle a choisi la thématique du golf pour mimer la fin de la saison de hockey. On sait que les joueurs de hockey de la Ligue nationale notamment se tournent souvent vers ce sport durant l'été. Alors cette année, la Slice revient avec quelques nouveautés que nous rapporte Guillermo Tolosa à Cornwall, en Ontario.
Le club d'improvisation francophone La Slice revient cet été pour une deuxième édition après avoir connu un certain succès l'an dernier. Nick Filion, l'un des membres fondateurs, nous explique le concept du club d'impro La Slice.
La Slice, c'est une ligue d'impro estivale qui joue dans un terrain de golf. Fait, comparativement à des ligues d'impro traditionnelles qui jouent dans des bandes de hockey, l'été, les joueurs de hockey qui font pas les playoffs se pointent vers le golf. Pis c'est ce qu'on fait nous autres aussi. Fait qu'on est une ligue d'impro dans un terrain de golf à thématique de golf.
Nick Filion a fondé La Slice avec trois autres de ses amis, grands amateurs d'impro, et tous originaires de l'Est ontarien.
En plein succès, fait que la Pro Shop, comme qu'on s'appelle, on a Fred Lalonde de Hawkesbury, on a Zachary Gosselin de Rocklin et Dominique Payet d'Orléans. Et moi, je viens de Rocklin, fait que les quatre, on vient de la région Est-Ottawa-Ontario, puis on fait ça vraiment là, pour la communauté dans notre région en plus.
La continuité du club d'impro La Slice dépendait de la réponse du public. Et avec le succès que le club a rencontré l'année dernière, Nick et ses amis ont décidé de se lancer pour une deuxième édition.
Oui, le succès qu'on a eu l'an passé, c'est un peu hallucinant. La communauté, elle s'est vraiment mobilisée autour de nous autres, puis on était sable comble pratiquement tous les spectacles. Fait que cette année, on a rajouté des spectacles pour essayer d'avoir un peu plus de monde qui vienne nous voir. Et juste en réagissant à l'impact qu'on a eu avec la communauté l'an passé.
L'année dernière, il y a tellement eu d'inscriptions pour participer au tournoi d'impro que la Slice a dû refuser des équipes. Cette année, Nick et ses amis ont changé la formule afin de permettre à plus de monde de participer, notamment en passant de 9 à 12 équipes.
Fait que ce qu'on fait pour les équipes, on envoie un formulaire d'inscription, puis on ouvre ça en long et en large à n'importe qui veut faire des équipes. Cette année, on a 12 équipes avec 48 joueurs, joueuses d'un peu partout. On a du monde de Mont-Laurier. On a même de la représentation du nord de l'Ontario avec une équipe de la LINO, la Ligue du nord de l'Ontario, de Sturgeon Falls, qui va jouer avec nous autres cet été.
La soirée d'impro de la Slice se déroule au club de golf de Hammond et le club offre plusieurs nouveautés au public.
Oui, fait que Hammond, c'est quand même un bon petit coin. C'est accessible de partout pour l'Est Ontario, autant que la région d'Ottawa. Au terrain de golf Hammond, on est choyé. On a vraiment une belle salle avec eux autres. Cette année, une des nouveautés pour la Slice, leur restaurant, le Dandelion, sera ouvert à la grande demande du public de l'an passé. Dans le resto, il y a la brasserie Broken Stick. Fait que pour vrai, c'est un endroit exceptionnel là, pour faire un show d'humour avec une équipe accueillante comme le Hammond Golf, le Dandelion et Broken Stick.
La saison de la Slice commencera le 14 mai et il y aura une soirée d'impro à chaque deux semaines jusqu'à la fin du mois d'août.
Fait qu'on a un horaire avec nos 12 équipes. Il y a certaines équipes qui vont jouer trois fois pendant l'année. Il y en a d'autres qui vont en jouer deux matchs. C'est vraiment un match pour le fun. Fait que le déroulement à tous les soirs, on a quatre équipes qui vont s'affronter. Fait que deux matchs par soir, deux matchs de 50 minutes par soir. Fait qu'à chaque soir, là, c'est quatre équipes que vous allez voir à Hammond.
Si cette saison est une fois de plus couronnée de succès comme l'année dernière, et que l'événement est rentable pour le club de golf, Nick Fillion et ses amis espèrent revenir pour une troisième saison et que la Slice devienne un événement annuel implanté au sein de la communauté.
Oui, 100%. Avec l'an passé, c'est ce qu'on s'est dit. On en revient si le public le veut. Puis à la grande demande du public, on est de retour cette année. Et si on a le même intérêt cette année, c'est certain qu'on revient pour une troisième édition, même qu'on a encore une couple de petites surprises là, dans nos poches qu'on se garde pour un peu plus tard cet été.
La slice est un terme au golf qui signifie un coup où la balle prend une courbe et change de trajectoire, ce qui représente bien la tournure que peut prendre un numéro d'improvisation. Et comme plusieurs ligues, la Slice est aussi un acronyme pour la Super Ligue d'improvisation communautaire estivale. C'était Guillermo Tolosa à Castleman pour IGL.
Voilà, c'est tout pour nous déjà à Point de vue. Merci à nos journalistes Gabriel Poulain, Vincent Lavoie, Annette Minka, Guillermo Tolosa et Alice Zanetta. Rédactrice nationale Julia Chénu. Point de vue vous est présenté par le Fonds canadien de la radio communautaire, mais aussi l'initiative de journalisme local. Ici Boris Chassagne qui vous remercie d'être là chaque semaine. À bientôt. Ciao.
Commentaires ou suggestions, écrivez-nous radio@fréquenceinfo.ca, radio@fréquenceinfo.ca.